Vous écoutez Radio Électron Libre. Bienvenue dans Info ou Intox, une émission présentée par Vincent. Info ou Intox, 60 minutes pour s'interroger. 60 minutes durant lesquelles nous allons ensemble procéder à un décryptage de l'actualité. Info ou Intox sur Radio Électron Libre, nous sommes ensemble pour 60 minutes.
Et bienvenue, nous sommes le jeudi 18 septembre 2025, dans la région où je suis, il fait 23 degrés et il est 19h01 et 15 secondes. Je suis en direct avec ma petite tasse de café, tranquille. Alors bienvenue sur Info ou Intox, l'émission où on s'interroge, on décortique et on rigole un peu jaune parfois face aux absurdités de notre monde. Animé par votre serviteur, Vincent Vermeil, en direct sur les ondes de Radio Électron Libre. Un merci du fond du cœur aux contributeurs qui permettent, en partie depuis 4 ans maintenant, bientôt 4 ans et demi maintenant, à la radio d'exister. Alors contribuez, ne pensez pas que les autres vont faire, etc. Faites-le vous-même, sinon rien ne se fait. Retrouvez sur le site internet de la radio électronlibre.ch, en bas de la page d'accueil, toutes les coordonnées et possibilités pour se faire. Cela étant dit, Info ou Intox, eh bien, fouille encore une fois aujourd'hui les recoins sombres de l'actualité ou de l'histoire. Aujourd'hui, ce sera l'histoire un peu, pour débusquer les magouilles ou les magouilles des puissants et autres. Voilà. Alors, on va passer une heure ensemble et on va refaire un peu, on va dire, l'historique des fameuses cartes d'identité que pratiquement tout le monde a dans son porte-monnaie ou dans ses documents, etc. Et du passeport qu'on peut avoir quand on est obligé d'avoir, hein, quand on prend l'avion, etc. Voilà, c'est une surtout après les attentats mafieux et criminels et scandaleux du 11 septembre qui ont provoqué un renforcement, soi-disant pour éviter les attaques terroristes, un renforcement des mesures de sécurité dans tous les aéroports, gares, trains, etc. Voilà. Mais dans les aéroports, ce qu'il y a de rigolo, et ce que beaucoup ont fait le constat, c'est que dans un avion, vous mettez quoi? Les Airbus A380, vous mettez quoi? 350, 400 personnes, d'accord? Et puis, vous prenez au jour des grandes vacances, des grandes affluences dans les aéroports, eh bien, vous prenez dans l'aéroport même, avant qu'on contrôle vos bagages, avant qu'on vous fouille jusqu'aux omoplates ou d'enlever vos godasses, votre ceinture, etc. Imaginez-vous que des fois, vous avez plus de 1500, 2000, 3000 personnes qui attendent patiemment justement pour se faire fouiller l'arrière-train dans les gares ou dans les aérogares, pardon. Alors, les aéroports. Donc voilà, donc c'est un peu paradoxal. Imaginez-vous quelqu'un qui a une jolie bombe dans son sac à dos ou dans son bagage. Et puis, il pourrait faire péter, au lieu d'en faire péter 350 en vol. Alors, vous allez me dire, oui, mais les débris, ça risque de tuer. Oui, oui, bon. Mais là, vous pouvez tuer directement, je ne sais pas moi, 1000, 2000, 3000 personnes qui sont dans l'aéroport en train d'attendre gentiment de se faire fouiller l'arrière-train pour monter dans un avion où il n'y a que au maximum 400 personnes. C'est assez étonnant, hein, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, voilà. On est un peu dans les paradoxes maintenant au niveau de l'actualité, mais bon, voilà. C'est un peu, ça permet aux gens de se réveiller un peu puis de s'interroger sur les réalités de ce qui est raconté par les outils de propagande qui sont comme pour nous en Suisse qu'on est obligé de payer. Mais revenons à nos moutons et parlons donc de ce bout de parchemin entre guillemets. Ou de ce bout de papier, ou de cette puce à venir. Eh oui. Aujourd'hui, on plonge la tête la première dans l'histoire de ces bouts de papier, justement, qui nous collent à la peau, les pièces d'identité et les passeports. Alors, pourquoi existent-ils? Comment sont-ils nés? Par qui? Et où nous mènent-ils jusqu'à cette carte magique, le ID que les Suisses voteront dans 10 jours, le 28 septembre, donc 2025. Où va-t-il nous mener tout ce système de cartes d'identité? Alors imaginez un bout de parchemin qui vous sauve la vie, ou vous envoie en prison. On va voyager dans le temps avec des noms qui claquent, des faits qui piquent et des exemples qui vous feront hocher la tête en vous disant « Tiens, c'est vrai ça ». Alors, pas de blabla technique, hein, juste la vérité crue pour que tout le monde, hein, donc de la grand-mère au gamin de 10 ans, d'accord, pige tout et comprenne comment ça a fonctionné et d'où viennent et où on va avec ses passeports. Et parce que l'histoire sans rythme, c'est un peu comme un passeport sans photo, on glissera peut-être dans l'air un morceau de musique. Il y a une petite nouveauté là que Jean-Michel, qui fait la programmation sur la radio, m'a refilé tout à l'heure. Je me suis dit qu'on pourrait comme ça un peu changer d'air. Et c'est une nouveauté suisse en plus, ça vient de sortir. Alors c'est parti. Avant de plonger dans les sables de l'Égypte antique, rappelons pourquoi ce sujet qui nous touche tous, dans un monde où on scanne votre visage pour acheter un café, comprendre ces outils de contrôle, c'est reprendre le pouvoir. Eh oui, si vous comprenez comment ça fonctionne, vous pouvez reprendre le pouvoir. On va décortiquer chaque époque avec des anecdotes croustillantes, des critiques affûtées ou des faits vérifiés. Ça va être assez étonnant. Remontons aux sources, chers auditeurs. Là où tout commence, par une simple lettre royale. Figurez-vous que le passeport, ce document qu'on agite aux frontières comme un drapeau blanc, a plus de 3000 ans. Et oui, vous avez bien entendu, 3000 ans. En Égypte antique, vers 1250 avant notre ère, le pharaon Ramsès II griffonnait déjà des lettres de sauf-conduit sur du papyrus. Imaginez le scribe, plume en main, écrivant « Ô voyageur, par la grâce de Ramsès, grande puissance, tu peux traverser le Nil sans risquer la momification prématurée. » Incroyable. C'était pour les diplomates ou les marchands une autorisation royale pour ne pas finir en pâté pour crocodile. Exemple concret, un messager de Hitti. Alors, pas l'extraterrestre, hein. Hittite, pardon, ennemi juré des Égyptiens, porte sauf-conduit après le traité de Kadesh en 1259 avant Jésus-Christ et traverse en paix. Pourquoi ? Parce que même les pharaons savaient que le commerce et la diplomatie exigent un minimum de confiance. Sans cela, les routes étaient très piégeuses, mortelles. Par qui ? Ben, par les scribes et le contrôle, hein, s'effectuait par qui ? Eh bien, par des scribes du palais, ces premiers bureaucrates, si on peut dire, qui notaient tout sur papyrus, préfigurant nos administrations actuelles. Mais allons plus loin, allons plus loin. Dans la Bible, au livre de Néhémie, vers 450 avant Jésus-Christ, le roi perse Artaxerès, oh là là, j'arrive jamais à prononcer les prénoms comme ça, moi. Premier délivre des lettres de passage à Néhémie pour rebâtir Jérusalem. Sans ça, les gouverneurs locaux l'auraient arrêté comme un rebelle. Et on peut ajouter comme fait intéressant que ces documents étaient scellés avec un anneau royal impossible à falsifier. À l'époque, soi-disant. Hein, maintenant, on sait qu'on peut... voilà. Mais aussi, sachez que celui qui le falsifiait, qui essayait de le falsifier, eh bien, risquait de se faire, décapiter. Voilà. Il ne plaisantait pas à l'époque. Et puis, on continue avec d'autres exemples. En Chine antique, sous la dynastie Qin, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, des tablettes de bambou servaient de laissez-passer pour les soldats et les marchands le long de la grande muraille de Chine. Vous savez, cette grande bâtisse qu'on voit même depuis la Lune, depuis l'espace. Alors, pourquoi ces inventions, vous allez me dire ? Eh bien, pour contrôler les mouvements dans des empires vastes comme des océans, où un inconnu pouvait être un espion ou un voleur. Alors, ce n'était pas pour la liberté, mais c'était pour la stabilité du pouvoir. Eh oui. Alors bon, on peut critiquer un peu le système, hein, parce que déjà à l'époque, ces papiers, on a l'impression que ça séparait les bons des mauvais, les puissants des humbles. Un paysan, par exemple égyptien, sans lettre royale, eh bien, imaginez-vous, il est bloqué au village. Hein. Ben oui, il est bloqué dans son village. Hein. La vérité, l'identité était un privilège, pas un droit. Alors ça interroge, parce que pas un droit, mais l'identité n'a pas de droit, vous naissez, vous êtes déjà une identité en naissant. Après, on vous attribue un prénom, hein, vous ne choisissez pas votre prénom. Certains en changent, hein, par le, voilà, mais vous ne... Voilà. Vous êtes déjà une identité à vous tout seul. Ça, c'est incroyable quand même de s'imaginer et de penser à ça de cette manière-là. Mais on continue. En Grèce antique, eh bien, chez les Athéniens, au 5e siècle avant Jésus-Christ, Périclès impose des tablettes d'identification pour les citoyens lors des assemblées. Exemple, un métèque, un étranger donc, hein, c'est le terme utilisé à l'époque, sans sa tablette se faisait expulser de l'agora. Ah bon, mais par qui ? Eh bien, par les magistrats élus, ces gardiens de la démocratie naissante. Tout ça pour dire que dès l'aube de l'humanité, l'identité sert à inclure ou à exclure. Souvent, le constat était déjà là à l'époque, au profit des élites. C'est assez incroyable, c'est assez fou, mais quand on remonte tout au long de l'histoire, eh bien, on en découvre des choses. Imaginez-vous que à l'époque, déjà, la démocratie était entre guillemets hein, sous contrôle. Hein. Et oui. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais bon, on va continuer avec le Moyen Âge, hein, parce que le Moyen Âge, il y avait des sceaux royaux qui étaient mis en place parce que les routes étaient de plus en plus périlleuses. Alors, cette ère de châteaux et de chevaliers. Où l'Europe se fragmente en royaumes jaloux. Hein. Prenez par exemple Henri V, ce roi d'Angleterre, au début du XVe siècle. Aujourd'hui, celui immortalisé par... Oui, c'est celui qui était immortalisé par Shakespeare, le conquérant d'Azincourt en 1415. Eh bien, en 1414, il invente le sauf-conduit, un parchemin scellé à la cire avec son sceau royal. Alors, un exemple concret, un marchand anglais partant pour la Flandre devait le montrer aux gardes du guet sous peine de se faire pendre comme un espion. Imaginez la scène, le voyageur sur son cheval, boueux, sort son rouleau précieux. « Par ordre du roi, laissez passer !» Eh bien, sans ça, pillage assuré par des bandits ou des seigneurs rivaux. En France, c'est... Louis XI, surnommé l'araignée pour ses intrigues, qui en 1460 impose ses papiers pour contrôler les routes du royaume. Pourquoi ? Parce que les rois voulaient savoir qui bougeait. Un paysan en fuite ? Un noble rebelle ? Tout était noté avec des descriptions physiques pour éviter les faux. Un début de fichage systémique. Eh oui. Par qui ? Eh bien, par les seigneurs et les clercs, c'est encore là des bureaucrates en herbe qui préfiguraient nos fonctionnaires d'aujourd'hui. Puis vous allez me dire, oui, mais bon, alors vous me parlez, Vincent, tu me parles de l'Égypte, de la Grèce, de l'Angleterre, de la France, mais la Suisse dans tout ça. Eh bien, là, en Suisse, dans tout ça, déjà au XVe siècle, dans la Confédération helvétique naissante, des lettres de passage circulaient entre cantons, pour les bergers traversant les Alpes. Ça a été vérifié en 1477, après la bataille de Nancy. Des émissaires suisses utilisaient ces sauf-conduits pour négocier avec les Autrichiens. Guillaume Tell, légendaire tireur à l'arc, symbolise cette liberté helvétique. Mais même dans les récits, un tel héros aurait eu besoin d'un papier pour franchir les cols sans encombre. Alors on peut critiquer, hein, c'est vrai que voilà, ces documents étaient rares, hein, réservés aux élites. Un cerf, cloué à sa terre, sans droit de mouvement. Un exemple poignant de ça, hein, pendant la peste noire en 1348, des juifs fuyant le pogrom devaient obtenir des sauf-conduits des évêques. Souvent refusés, les sauf-conduits, menant à des massacres injustes. Eh bien, sachez que la vérité, c'est que l'identité médiévale était un bouclier pour les puissants, une chaîne pour les autres, renforçant les inégalités sociales. Alors, imaginez-vous, on a décidé à un moment donné l'abolition de l'esclavage, mais on peut faire avec ce récit, le début de ce récit, on peut essayer de faire un lien, une corrélation, où on a remplacé en fait les chaînes avec le boulet par justement ces sauf-conduits. Vous n'avez pas de sauf-conduit, vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc en fait, on a aboli, c'est ça qui est extraordinaire quand on réfléchit, c'est qu'on a aboli les boulets et les chaînes et on les a remplacés par des papiers. Alors, les papiers n'allaient pas aux esclaves, non, ils allaient à ceux qui pouvaient bouger. Et les autres, ben, sans papier, vous ne bougiez plus, vous devez rester dans un périmètre défini, voilà, dans votre propriété. Donc on avait déjà un système aussi qui a été mis en place de sorte de prison, et oui, j'ai bien utilisé le mot de prison, à ciel ouvert. Vous avez un papier, vous pouvez bouger, vous n'avez pas de papier, ben vous ne bougez pas et vous devez rester chez vous. Alors bien sûr, dans un certain périmètre, oui, c'était possible de se déplacer, entre guillemets, librement. Alors c'était à vos risques et périls, hein, risque de se faire brigander ou voler, etc. Mais voilà, ils avaient déjà trouvé à l'époque, ils avaient déjà commencé à mettre en place une espèce d'esclavagisme, d'accord, qui permettait de garder les esclaves sous contrôle. Celui qui n'avait pas de papier était esclave, quelque part, et n'était pas libre. Étonnant, hein. Alors, on parle de l'histoire de l'humanité, mais au travers de tout ça, l'être humain, depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années, est sur Terre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a très, 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 très peu de faits historiques qui remontent à avant 3 ou 4 000 ans. Vous allez me dire, oui, mais Gutenberg n'était pas né, on n'avait pas inventé l'imprimerie, on n'avait pas la TV, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Mais les gens voyageaient quand même, commerçaient quand même. Alors, on nous a raconté, expliqué à l'école que, ah oui, mais au début, c'était les Néandertaliens, ils étaient un peu bobés, c'était des bêtes. Ouh là 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 là, c'est quoi cette histoire? Alors, il y a des choses qui sont étonnantes quand même sur Terre. C'est qu'on appelle les bêtes des bêtes, et puis les gens qui sont un peu, à qui il manque quelques, on va dire, quelques neurones, hein, qui ont des idiots, bien des bêtes aussi. Et puis on est en train de constater de nos jours, hein, parce qu'on a quand même, il y a quand même des gens qui regardent les animaux, qui regardent d'autres espèces qui fonctionnent, qui vivent. Et puis on constate que eh bien ces bêtes ne sont pas si bêtes que ça. On l'a constaté pour les éléphants, pour les pieuvres, pour les dauphins. Dernièrement, alors c'est encore une information à vérifier et à revérifier, mais dernièrement avec des orques qui ont soi-disant fait exprès de faire couler un voilier. Voilà. Alors, parce que ça dérange les bateaux, je pense, ça les embêtait, ça les dérange, mais ils se coordonnent ensemble pour envoyer un voilier par le fond. Si c'est vrai, si c'est réel, eh bien, dites-vous bien que ces animaux ne sont pas aussi bêtes que ça. Voilà. On a l'intelligence collective des fourmis, hein, qui sont capables de faire des grandes choses, des immenses fourmilières, ou bien alors encore mieux, les termites, qui construisent des termitières, notamment en Afrique, qui font quelques mètres de haut, etc. On a aussi la même chose avec les guêpes ou les abeilles, qui font des nids magnifiques. Voilà. Donc des bêtes, c'est pas si bête que ça. Bref, je m'éloigne de mon sujet qui est l'histoire de nos pièces d'identité. Eh oui. Alors, tout ça, ben, ça renforce les inégalités sociales. Allons par exemple en Italie. Les cités-états comme Venise au XIIIe siècle délivraient des patentes pour les navigateurs. Marco Polo, en 1271, porte une lettre d'or du Khan pour traverser l'Asie. Sans elle, adieu, soie et épices. Alors vous me direz, mais pourquoi cette évolution? Eh bien, les croisades et les commerces explosent, forçant les rois ou les empereurs, etc., à réguler le flux pour protéger leurs intérêts économiques. Et tout ça est mis en place par qui, comment, par quoi? Ben par qui? Par des chancelleries, les chancelleries royales ou impériales, qui étaient déjà à l'époque, hein, des nids d'espions et de scribes qui surveillaient tout pour protéger les intérêts du royaume, mais bien souvent c'était pour protéger les intérêts du roi. On avance, Et on a toujours derrière, imaginez-vous, le bruit des plumes grattant les parchemins, ou bien du maillet tapant sur le burin pour écrire sur les tablettes. C'est une sacrée ambiance et on a déjà à l'époque voulu mettre les gens sous contrôle, les populations sous contrôle. La liberté est bien, bien relative. Alors, on avance hein, et on arrive à la Révolution française de 1789, hein, qui secoue tout comme une espèce de tremblement de terre. En 1790, les Jacobins, ces rêveurs de liberté avec des idéaux enflammés, abolissent les passeports internes pour promouvoir la libre circulation des citoyens. « Vive la libre circulation » clament-ils dans les rues de Paris. Mais la guerre, elle sort d'où cette guerre? Ah, la guerre contre les monarchies européennes et les régimes nobiliaux font vite revenir les ennuis. En 1792, Robespierre et ses comparses réintroduisent les passeports révolutionnaires pour traquer les suspects et les contre-révolutionnaires. Un exemple frappant, ou plutôt coupant, Marie-Antoinette, en fuite vers Varennes en juin 1791, juste avant la réintroduction formelle, se fait pincer parce que ses papiers déguisés, donc falsifiés, ne trompent pas les gardes vigilants. Ce bout de document mal falsifié scelle son destin, l'amenant à la guillotine. Pourquoi ce revirement ? La terreur, avec un T majuscule, exigeait de savoir qui était loyal à la République, transformant la liberté en surveillance paranoïaque. Et encore une fois, mais par qui c'est fait ? Eh bien, par les comités de salut public, ces vigilants qui notaient tout, des tatouages aux cicatrices pour un contrôle total. Au 19e siècle, avec les nations qui se forgent comme des épées dans la forge, les passeports deviennent obligatoires, comme la taxe SERAF. En France, c'est la loi de 1815, sous Louis XVIII, qui les impose aux frontières pour filtrer les entrants. Un exemple avec Napoléon. En exil à Sainte-Hélène, parce qu'il hein, ne servait plus, après Waterloo, avait un passeport britannique pour ne pas s'évader. Un outil de captivité. Et oui, ça rejoint ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, où on a remplacé, et c'est subtil, on a remplacé la chaîne avec le boulet, d'accord, par un passeport. C'est quand même incroyable d'en arriver à cette conclusion-là et à cette, on va dire pas conclusion, mais à cette, oui, à ce constat-là. Voilà. Alors on continue. Hein. Donc en Allemagne, Otto von Bismarck, le chancelier de fer, unifie l'empire en 1871 avec des cartes uniformes pour contrôler les ouvriers migrants lors de l'industrialisation. Pourquoi fait-il ça ? Eh bien, les révolutionnaires de 1848 avaient effrayé les monarques. Il fallait tracer les agitateurs pour préserver l'ordre naissant. Eh oui, ces papiers deviennent des outils de nationalisme exacerbé. En Russie, par exemple, les tsars imposent des passeports internes aux serfs libérés en 1861. Alors, la liberté était bien sur le papier, hein, mais n'empêche que c'était une surveillance accrue pour prévenir les révoltes. Et voilà. Donc, on a aboli la servitude, hein. Et puis en fait, ben derrière la servitude qu'on a abolie, on a quand même instauré autre chose. C'est comme aujourd'hui, on joue toujours sur les mots, hein, c'est sûr, efficace, bien fondé, etc., inclusif. Mais non, on joue sur les mots. Hein. Y a des mots qui sont détestables dans la langue française, comme par exemple rentabilité hein, ou consensus. Ouais, voilà. Par exemple, une espèce de paradoxe, un consensus scientifique, ça n'existe pas. La science, ça ne peut pas avoir de consensus. C'est soit c'est comme ça, soit c'est remis en question, etc. Voilà. On est vraiment, vraiment dans un gros délire et on se rend compte, en étudiant cette histoire, et c'est ça que j'aimerais partager avec vous, avec cette émission, que l'histoire des passeports et des papiers n'a toujours pas changé et ce n'est pas l'ID qui va les faire changer, hein, ça c'est clair, hein, parce que l'être humain étant ce qu'il est. Hein, et la mafia qui est derrière n'a pas envie de perdre les gains que ces esclaves peuvent lui rapporter. Alors par rapport aux Russes qui ont donc aux serfs russes qui libérés en 1861, un fait qui a été retracé, un juif russe sans passeport se voit confirmé au pal de peuplement, menant à des pogroms encore une fois systématiques. Et là encore, par des préfets et gendarmes, gardiens de l'État naissant. Alors on va continuer justement, comme je vous ai dit, avec une petite musique Made in Switzerland. Je vous laisse découvrir ce que c'est et puis on en recause après. Ah, le chasse-là. Alors, je dois quand même vous dire, hein, comme c'est de l'alcool, eh ben, il faut picoler avec modération, chers auditeurs et auditrices. Hein. Pas c'est dangereux pour la santé. Hein. Il y a des pictogrammes sur les bouteilles. Il ne faut pas que les femmes enceintes, elles boivent. Hein. Donc maintenant, ça c'est dit, hein, je suis sécurisé. Et puis, alors, picolez bien, hein, avec modération. Je n'ai jamais rencontré modération, moi, hein, mais bon. Ouais, bref, j'arrête. Hein. Non, j'en ai pas bu de chasse là. Non. Peut-être après. Voilà, tout ça pour vous faire une petite aparté et vous dire que, eh bien, on va avoir, dans la région où j'habite, vers Sugier, Prat, etc., un village en bas, là, au bord du lac de Mora, eh bien, nous allons avoir, en face de Mora, de l'autre côté du lac, à Sugier, à Prat, eh bien, nous allons avoir la fête des vendanges le week-end qui vient. C'est sur 2 jours, c'est sympathique, c'est sympa. C'est bien organisé, ils se donnent de la peine et tout. Alors n'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, eh bien justement, il y a la fête des vendanges. Et puis, il y a la fête des vendanges à Neuchâtel qui arrive aussi. Alors bien plus grosse, c'est vrai, bien plus grosse. Mais voilà, ça c'était pour le côté agenda du jour. Hein. Faut aussi faire un peu de pub pour la région dans laquelle je vis, pourquoi pas. Et puis, c'est le cas aussi pour vous dire qu'il faudrait peut-être des fois, si vous avez envie qu'on partage avec vous à l'antenne des manifestations qui ont lieu chez vous, hein, eh bien n'hésitez pas, laissez un petit message sur le répondeur de la radio, hein, en annonçant, pour annoncer votre manifestation. Et puis on se fera un plaisir de relayer la chose. Ça peut être sympa d'avoir une rubrique agenda, hein, pour annoncer les manifestations qu'il y a dans vos régions et tout. Alors faites-le un peu en avance quand même, hein. Ne laissez pas un message le jour d'avant pour une manifestation. Faites-le 1-2 semaines avant, 3 semaines avant, qu'on ait le temps, nous, de préparer peut-être un petit truc, ou bien alors de reprendre directement le message que vous avez laissé sur le répondeur. Ceci étant dit, on va continuer avec nos histoires de passeports, de cartes d'identité. Alors, on va venir avec les colonies. Alors, ce n'est pas les jolies colonies de vacances comme nous chanterait Pierre Perret. Non. En Inde britannique, dès 1830, des passes pour les coolies, ces travailleurs forcés, les enchaînaient aux plantations, facilitant l'exploitation. La vérité de tout ça, eh bien, l'identité moderne naît dans le sang des empires coloniaux. Ses parents, entre guillemets, civilisés et sauvages, pour justifier une domination. Assez incroyable, mais vrai. Entrons maintenant dans le tumulte du XXe siècle, où les guerres mondiales transforment les papiers en armes. La carte d'identité pointe le bout de son nez en 1917. D'abord pour les étrangers en France. Pensez aux Russes blancs fuyant la révolution bolchévique de 1917. Puis en 1920, un carnet anthropométrique pour les, entre guillemets, nomades. Un doux euphémisme pour les tziganes. Avec photos, empreintes et signalements physiques. Un outil discriminatoire pour les marginalisés. Dur, hein? Ça pue la discrimination raciale. Eh oui. Un exemple, ben, Alphonse Bertillon, inventeur français de l'anthropométrie, en 1882, mesure crâne et oreille pour identifier les criminels. Précurseur des fiches policières modernes utilisées pour ficher les suspects. Mais alors, dites-moi, dans les passeports aujourd'hui biométriques, il y a vos empreintes digitales, votre photo, etc. Vous êtes déjà suspect ? Je vous laisse réfléchir là-dessus. On est tous suspects. La Seconde Guerre mondiale accélère tout. En 1940, sous le régime de Vichy, la carte d'identité devient obligatoire pour tous les Français, facilitant les contrôles. Jean Moulin, le résistant qui se baladait avec de faux papiers pour organiser la France libre, capturé en 1943, torturé par la Gestapo. Il montre comment ces documents pouvaient être subvertis pour la liberté. Il y a aussi l'effet sombre. Hein. En 1938, les nazis exigent un J rouge sur les passeports des Juifs, facilitant les rafles et les déportations. Pourquoi ? Eh bien, pour trier les indésirables dans une machine de mort. Par qui ? Eh bien, par des régimes totalitaires, comme Hitler ou Staline, qui sont retracés par l'histoire, et qui étendent les contrôles internes. En URSS, dès 1932, les passeports internes traquent les kulaks, des millions de déportés au goulag. Et oui, le résultat est là. Ça permet de déporter des gens. En 1945, la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, avait poussé dès 1920 pour des passeports uniformes. Mais c'est l'ONU en 1948 qui standardise vraiment les passeports. Résultat, eh bien aujourd'hui, pas tous les pays du monde, mais quand même une grande majorité, 195 pays en ont, avec photo, signature. La guerre froide ajoute des visas idéologiques. C'est quand même critiquable. Exemple aux USA, hein, le passeport McCarthy, en 1950, refuse aux communistes suspectés et se transforme en un outil de chasse aux sorcières. La vérité dans tout ça, c'est que ces papiers protègent autant qu'ils oppriment, servant de barrière invisible dans un monde divisé par les idéologies. Retenez bien, chers auditeurs et auditrices, que l'idéologie est le premier pilier des civilisations. Imaginez ces bureaucrates qui suivent comme des moutons, en fait, qui suivent comme des... Voilà, ils sont aux ordres, d'accord. Avec, à l'époque, il n'y avait pas les imprimantes comme aujourd'hui, il y avait le bruit des machines à écrire. Imaginez ça. Ils sont en train de taper, de remplir des fiches signalétiques. Voilà. Mais bon, on avance et on est maintenant à l'ère du numérique. Bip, bip, bip. Hein. Et oui. Alors, au XXe siècle, au XXIe siècle plutôt, où les papiers cèdent la place au numérique comme une feuille emportée par le vent, les passeports biométriques, lancés en Europe en 2006 par l'Union européenne, intègrent des puces RFID qui stockent vos données faciales. Iris, empreinte. Alors, toutes les excuses sont données, hein, et puis, soi-disant que c'est pour fluidifier les aéroports et combattre le terrorisme, post-11 septembre 2001. Bonne excuse, d'accord. Et puis, ça, c'est fait par qui? Eh bien, par la mafia derrière, hein, par des géants comme Gemalto, devenu Thalès. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu des manifestations en France, parce que les Français en ont marre, et il y a eu un groupe de manifestants devant justement l'entreprise Thalès qui soutient les assassinats de femmes et d'enfants à Gaza en fournissant des produits d'identification, etc. à Israël. Bref, ces multinationales françaises ou étrangères, hein, qui vendent la sécurité comme du pain. Par exemple, à l'aéroport de Genève, en 2023, un scan facial a évité un faux passeport. Bravo, 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 voilà. Voilà, ils ont scanné la face d'un individu et ils ont constaté que ça ne correspondait pas à la photo du passeport. Voilà. Mais par contre, ce système-là, en Chine, hein, le système du crédit social, lie tout à un identifiant numérique depuis 2014 déjà. Donc ça fait plus de 10 ans, 11 ans maintenant. Alors un retard de bus et hop, votre score chute, interdisant trajet, train ou emploi, ou même certains achats ou déplacements. C'est complètement fou, mais c'est une réalité. Alors bien sûr que ça ne touche pas, et je l'ai déjà dit et expliqué, ça ne touche pas certaines provinces, certaines dans les campagnes notamment, mais par contre certaines villes, grandes mégapoles, sont touchées par ça. Ça amène une autre vision de ce que peut provoquer justement cette identité électronique. Et le pire dans tout ça, c'est que cette identité électronique a une mémoire. Vous avez un passeport, vous faites votre passeport papier, voilà, il n'y a rien d'autre, on sait juste que vous vous appelez Tartampion du Schmoll et que vous vivez à tel endroit où vous êtes originaire de tel pays. Il n'y a pas d'adresse sur une carte d'identité. Il n'y a pas de numéro d'ABS, Beat Jans, conseiller fédéral. Il n'y a pas de numéro d'ABS sur les cartes d'identité. Je répète, il n'y a pas de numéro d'ABS sur les cartes d'identité. Ah oui, non mais voilà, les idioties qu'il ne faut pas entendre. Et ce monsieur est conseiller fédéral. Hein. Bref, donc ça permet normalement de dire, quand vous avez une carte physique, qui vous êtes. Vous avez la photo qui correspond, un signalement qui est donné, voilà. Bon. Punkt, Schluss. Mais maintenant, avec l'idée numérique, c'est une autre paire de manches. Parce que là, vous avez tout le pédigré de quelqu'un depuis sa naissance jusqu'au jour au présent, jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça est stocké. Alors imaginez-vous, vous reliez ça à une pseudo-intelligence artificielle et puis vous donnez à cette intelligence artificielle des algorithmes, d'accord, qui permettent ben, de faire du tri. Alors c'est bien de faire du tri, du rangement, etc. Mais s'il vous plaît, pas pour les êtres humains. Donc on est dans la ségrégation, dans la discrimination, etc. Oui, mais c'est pour être plus sûr, plus efficace, plus inclusif. Hein. Bye bye. On leur dira, on leur dira. Alors, on peut regarder ailleurs, hein, en Estonie, qui est la pionnière depuis 2002 de l'EID. Hein, ben, ça permet de voter en ligne. Alors, par exemple, 44% des votes en 2023. Mais. Ben oui. En 2017, une faille a forcé le blocage de 760 000 cartes, oui, montrant les risques. Alors, on nous met ça en avant comme c'était, ça simplifie la vie, hein, signer un contrat sans bouger de chez soi, hein, mais voilà, ça vous permet d'accéder à Internet, aux réseaux sociaux, oui, et puis ça permet aux possesseurs de ces réseaux sociaux de non seulement de savoir, alors soi-disant qu'ils ne savent pas qui vous êtes, c'est pas vrai, parce qu'ils peuvent faire des corrélations avec des bases de données, hein, qui sont interconnectées entre elles, eh bien, ils auront vite fait de savoir qui correspond à cette identité concrètement et de tout savoir sur elle. Parce que une chose dont les concepteurs de ce système de EID à travers le monde entier hein, ne parlent pas, c'est le fait que, alors, soi-disant, par exemple, pour la Suisse, ce ne sera pas obligatoire, c'est volontaire, etc. C'est un peu du blabla, mais voilà. Et que les données sont vraiment des données minimales qui sont stockées sur votre téléphone et blablabla, dans l'application SPIU, machin, et les trucs bidules. Eh bien non. On a un gros problème avec ça, c'est que par exemple pour Internet, les responsables de réseaux sociaux, quand vous vous connectez ou d'applications, etc., et qui vous demanderont un accès pour confirmer, par exemple, votre âge, hein, pour un site pornographique, par exemple, ou bien pour acheter un pot de confiture, eh bien, ils vous soumettent au départ à des conditions d'utilisation que vous devez accepter. Alors, il y a les conditions d'utilisation qui sont obligatoires hein, pour obtenir cette EID. Mais derrière, il y a toutes les autres conditions qui vont pouvoir être ajoutées, bon an, mal an, sans que vous puissiez dire quoi que ce soit par rapport à eh bien, au possesseur du site internet, donc qui va pouvoir faire ce qu'il veut des données. Il faut bien savoir que derrière les sites internet, vous avez des gens qui achètent la manière dont vous surfez sur ces sites. Je prends l'exemple de 20 minutes, je me suis amusé une fois à 20minutes.ch en Suisse, je me suis amusé une fois à décortiquer, à avoir toute la liste, je vous la partagerai, c'est assez impressionnant, des partenaires qui récoltent les informations donc, de ceux qui se baladent sur le site de 20 minutes. Il y a je ne sais plus combien de centaines, oui, de centaines de partenaires, des petites sociétés hein, qui sont partout sur la planète, à Hong Kong, à New York, à Washington, à Tokyo, partout sur la planète, des centaines de sociétés, des milliers de sociétés collectent ces données, d'accord, et payent 20 minutes pour lui fournir ces informations. Elle paye 20 minutes, elle ne va pas vous payer, alors elle va vous dire oui, mais c'est comme ça que le 20 minutes est gratuit. Ouais, ça fout les boules. Mais sachez, je vous partagerai les photos, je dois avoir une dizaine de photos, j'avais fait des captures d'écran de la liste impressionnante du nombre de gens. Oui, parce que alors, quand vous essayez de capturer, d'avoir la liste d'un coup, évidemment, que sur le site internet, on ne vous l'affiche pas. Donc j'ai dû fonctionner pour faire cette liste par des captures d'écran. Et j'ai passé un petit moment à faire ces captures d'écran, mais je vous les partagerai et vous verrez que c'est impressionnant. De voir le nombre de d'entreprises qui profitent de vos informations. Alors, quand vous acceptez les conditions d'utilisation, les cookies, etc., la majorité des gens ne se rendent pas du tout compte, mais pas du tout compte, de concrètement ce qu'ils transmettent comme information à ces entreprises. Le moindre mouvement de souris peut être calculé. Ou doigt sur l'écran de votre téléphone peut être calculé. Ils peuvent en temps réel, pratiquement en temps réel, suivre vos déplacements sur un site internet. À quelle fréquence vous cliquez, etc. Et tout ça, toutes ces informations, vous pouvez refuser. Jusqu'à aujourd'hui, on peut encore refuser, c'est-à-dire sélectionner les cookies que vous avez, soit c'est les cookies simplement de base, soit c'est tout le monde, donc vous pouvez encore faire une sélection. Mais avec l'histoire de l'EID derrière, de manière un peu pernicieuse et malhonnête, le fournisseur de services pourra, et ce sera très difficile à prouver, pourra vous faire accepter tout et n'importe quoi, lui facilitant la possibilité de vendre encore une fois ces informations. Big data, la vie privée, là, il y a un gros problème. On est en train, avec ce système de EID, de vouloir simplement effacer le dernier rempart légal qui existe pour protéger notre vie privée. En permanence, je dis bien en permanence, déjà nos téléphones nous espionnent. Croyez pourquoi que, par exemple, maintenant les téléphones, vous ne pouvez plus retirer la batterie. Vous croyez que votre téléphone est réellement éteint ? J'en veux pour preuve que non. Et je vais vous expliquer, c'est tout bête. Vous avez votre téléphone qui a la batterie qui est vide. D'accord. Donc normalement, il faudrait le rallumer. Mais comme par hasard, quand vous branchez le câble de chargement, boum, l'écran s'allume. Est-ce que votre téléphone est réellement éteint ? Je vous laisse réfléchir là-dessus, parce que vous avez une image qui apparaît à l'écran. Pour générer cette image, générer ce graphisme, d'accord, il faut qu'il y ait une application qui tourne derrière. Donc, est-ce que votre téléphone est vraiment éteint ? C'est des choses qui ne sont pas actuelles, que vous pouvez tester vous-même. Laissez votre téléphone se décharger complètement. Hein, voilà. Puis branchez le câble de charge. Et au bout de quelques... Aussitôt qu'il y a... Hop, ça démarre. Et qu'est-ce qui démarre derrière ? Est-ce qu'on peut contrôler ce qui démarre derrière ? Ah non, c'est secret de business, d'affaires. Il ne faut pas regarder derrière ce qui se passe. On ne peut pas vous dire. Voilà. On a ce gros problème avec l'EID, et ça c'est partout sur la planète. Hein. Donc c'est partout sur la planète. L'Estonie, donc, il s'est retrouvé avec 760 000 cartes, hein, donc il a forcé le blocage de 750 000 cartes. Il y a aussi des hackers, par exemple Equifax en 2017. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'histoire, mais de Equifax en 2017, 147 millions d'identités ont été volées. En Inde, à Adhar, depuis 2009, c'est 1,3 milliard de personnes qui sont reliées à une base biométrique. Donc, cette entreprise à Adhar, depuis 2009, relie 1,3 milliard de personnes à une base biométrique. Aidant les pauvres à toucher des aides, mais exposant à des fuites massives en 2018. 147 millions d'identités ont été volées. Alors pourquoi cette course ? Les États parlent d'efficacité, mais c'est du contrôle dopé à la technologie. Souvent, de manière pratiquement à 100%, c'est au détriment de la vie privée. Et puis alors, mais par qui tout ça est fait ? Eh bien, par des boîtes comme Microsoft, comme Google, comme Facebook, donc Meta, etc. Et puis tout ça profite derrière, de manière directe ou indirecte, à Vanguard, BlackRock. BlackRock, c'est 10 000 milliards de fonds d'investissement. Vous imaginez bien qu'ils ne veulent pas investir sans pouvoir avoir le contrôle de ce qu'ils vont vendre, sans savoir qui n'est pas rentable ou qui est rentable. C'est pour ça qu'ils veulent vous ficher électroniquement. Parce que toutes ces données remontées et traitées par une IA permettra de définir qui est rentable et qui ne l'est pas. Alors après, on mettra des critères d'âge, c'est-à-dire qu'ils vont constater qu'à partir de tel âge, vous n'êtes pas rentable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va organiser de vous piquer. On l'a déjà vu pendant le Covid. C'est incroyable. Et ça fait tilter personne. On doit absolument refuser ce truc-là. C'est complètement fou. Voilà. Donc, c'est Alors, les gens disent, oui, mais c'est l'État qui a besoin de ces informations. C'est pour faciliter la vie. La vie de qui ? La vie de l'État ? Qui vous ponctionne à tous les étages ? Non. Non, réfléchissez. C'est uniquement pour des entreprises privées. Punkt, Schluss. C'est clair. L'État, elle, c'est juste un intermédiaire entre deux qui maintenant est sous contrôle de ces grosses entreprises comme BlackRock, Vanguard et compagnie, et qui dicte, par le biais des banques, par le biais du système bancaire, qui dicte votre vie, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, et à tous les niveaux. Il y a des exemples comme ça, il y en a des concrets. Par exemple, vous êtes propriétaire de votre petite maison, vous avez une petite parcelle de terrain et vous décidez de faire un cabanon de jardin. Regardez les démarches pour le faire. Permis de construire, il faut du toit de telle couleur, telle hauteur, telle inclinaison, tel angle. Oui, mais mon cabanon de jardin, il est visible que par moi, il n'y a personne. Ah ben non, c'est la loi. Mais qui impose ces normes ? Qui met des bâtons dans les roues ? Pourquoi ? C'est quand même paradoxal. Et oui, il faut bien réfléchir. Voilà. Alors, on a tout ce système de fichage des êtres humains, mais pas seulement des êtres humains, dans d'autres domaines aussi, dans les plantes. À l'époque, par exemple, il y avait déjà des herbiers qui existaient, où vous aviez des centaines et des centaines de milliers de plantes qui s'étaient collectionnées, etc. Donc, de tout temps, l'homme a voulu avoir un contrôle, sur la nature, avec plus ou moins de succès. Mais là, on est en train de transformer l'espèce humaine complètement en bête de somme. L'esclavage n'a pas disparu, il a simplement changé de forme. Alors on va faire un petit zoom sur la Suisse, puisque dans 10 jours, on doit voter. Donc notre terre de démocratie directe. Bien, comme vous le savez, dans 10 jours, ça fait le 28 septembre, vous votez, nous votons sur la loi fédérale sur l'identité électronique, l'EID. Alors, c'est la deuxième tentative, en 2021. 64% des votants ont dit non à une version trop libérale confiée à des entreprises privées comme les banques, etc. La Poste derrière, il y avait. Et puis, il existe toujours, lui, il y avait déjà ce monsieur Cédric Moret et sa galaxie d'entreprises autour. Alors, ils ont dit non. Soi-disant qu'aujourd'hui, maintenant, avec la nouvelle mouture, eh bien, c'est étatique, facultatif, géré par l'Office fédéral de la police, donc FEDPOL. Et tout ça, c'est soutenu par le Conseil fédéral. Vous écoutez la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider qui plaide pour une preuve électronique simple comme pour le permis de conduire. Alors, il y a les Verts, il y a l'Union des villes suisses, il y a Économie suisse, il y a tout le monde dit oui. Sur le livret, le petit livret que vous avez reçu avec les votations, voilà, tu as tous les partis politiques qui disent oui. Puis tout à coup, il y en a qui sont revenus en arrière. Ils ont dit ah non, l'UDC ne parle pas, dit ah non, poussé par les jeunes UDC qui, dès le départ, n'étaient pas d'accord. Puis après, vous avez donc tout le monde, tout le tissu mafieux suisse dit oui. Et les campagnes mensongères, puisque chaque, il faut bien comprendre que chaque, comment dire ça, on va dire avantage entre guillemets annoncé par le Conseil fédéral ou ceux qui sont pour cette identité électronique, eh bien, ont été démontés point par point, preuve à l'appui, expérience, exemple à l'appui, comme quoi c'était complètement déjà inutile, d'accord ? Et puis, en plus, complètement pernicieux et que ça mettait, factuellement, ça ouvrait la porte à tout et n'importe quoi. D'accord ? Je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, l'EID peut être créé, peut être géré par FEDPOL. Mais imaginez-vous des gens mal intentionnés ou la mafia qui a infiltré FEDPOL et ils pourront créer des milliers, voire des millions d'identités électroniques pour favoriser une cause, changer les votations, tout ça avec des véritables profils sur les réseaux sociaux, etc. Qui va aller s'inquiéter de savoir si réellement M. du Schtroumpf Lachat habite bien à la rue des Cigogniers 17 à Schaffhouse. Donc vous avez des milliers d'identités comme ça, partagées par grandes villes, etc., qui peuvent être créées. Où vous allez avoir les photos, vous allez avoir la photo du petit dernier, etc. Mais tout va être généré par l'intelligence artificielle et puis servira simplement à décider, par exemple, d'augmenter un budget, à des actions politiques qui permettent de spolier l'argent du contribuable ou à transformer ou à infléchir certaines votations. Eh oui. Qui, alors, se disant oui, mais FEDPOL est intègre, etc. Non, non. On contrôle le citoyen, mais qui contrôle FEDPOL ? Qui contrôle FEDPOL ? Est-ce qu'il y a une commission citoyenne, d'accord, qui contrôle FEDPOL aujourd'hui ? Oui, il y a des commissions parlementaires, oui, mais elles bouffent à tous les râteliers. C'est comme avec l'assurance maladie. Il y en a qui sont administrateurs, qui sont dans les conseils d'administration, il y en a qui sont, voilà, et puis ils décident, ah mais non, voilà, on va... C'est un grand, 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 grand bordel. Si vous voulez en apprendre plus, par exemple, sur la galaxie de Cédric Moret et de Séraph et compagnie, eh bien, je vous invite à découvrir si vous voulez, les recherches qu'a faites, l'analyse qu'a faite M. Pascal Borel, qui sera en ma compagnie demain pour un nouvel épisode justement concernant l'argent, l'économie, du grand vol invisible. Eh bien, je vous invite à lire ce qu'il a fait. Je le partagerai aussi dans le groupe de la radio, là, sous l'émission. Je partagerai sa vidéo, le texte, le site internet où il a analysé toute la, on va dire, les flux financiers et qui est Cédric Moret et sa galaxie. Alors, c'est pas une critique de M. Moret. Non, M. Moret est à la direction de cette entreprise. Hein, voilà, c'est tout. Mais il pourrait s'appeler Tartempion. Mais ça explique clairement le fonctionnement et la mainmise des entreprises privées sur les politiques, sur l'État, sur nous. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir, quoi. Alors, soi-disant que beaucoup de gens disent oui pour l'EID en Suisse, soi-disant que ça simplifie la vie, permet de signer des baux en ligne sans se déplacer, mais voilà, obtenir des extraits de casier judiciaire, ça j'adore, mais qui va demander un extrait de casier judiciaire ? On a bientôt 10 millions d'habitants dans ce pays, qui va demander un extrait de